mettre sous silencieux avant cette séance de questions-réponses. Et nous commençons, comme d'habitude, par une femme. Est-ce qu'il y a une femme qui veut bien ouvrir les débats? Pas vraiment? Ici, ok. Il y a une femme qui est cachée au fond de la salle. S'il vous plaît, présentez-vous, le nom de votre organe, et puis une question par participant, s'il vous plaît. Merci.
Laurette Mandala, qui se loquait l'Afrique à télévision. La RDC peut-elle compter sur les Nations Unies pour la tenue dans le délai constitutionnel des élections présidentielles et législatives, puisque en ce moment, il se pose un problème sérieux du blocage du processus électoral. Et puis, vous avez dit tantôt, M. Mamadou Diallo, que la RDC a une très belle histoire avec les Nations Unies. Nous voyons le drapeau bleu et blanc flotter dans plusieurs territoires de la RDC, mais il y a une partie de la population qui vit dans la terreur à cause de la présence des groupes armés, les ADF Nalu, les FDLR, toutes les factions des groupes Mai Mai. 70 ans d'existence, ce n'est pas peu. Quel est le message que vous pouvez adresser à cette population qui vit dans la terreur?
Mamadou.
Merci, merci Madame Mandala. Et ça, ce sont des questions qui sont très importantes. Je commencerai, actualité oblige, par les élections. J'ai eu le privilège hier d'être interpellé par M. Marley, ici présent, sur cette question. Et ma réponse a été simple. Nous nous voyons ces élections comme une étape importante de l'approfondissement de la démocratie en RDC. Les élections ne sont pas uniques. Une démocratie ne dépend pas spécifiquement des élections, mais les élections sont un facteur important de l'enracinement de la culture démocratique. Sur cette toile de fond, je pense que tous les amis du Congo, y inclus les Nations Unies, devraient être auprès des Congolaises et des Congolais et auprès du gouvernement pour apporter tout appui nécessaire, logistique, matériel, humain, de conseils et d'accompagnement pour permettre aux Congolaises et aux Congolais d'aller vers le processus électoral dans la sérénité, dans la cohésion nationale et dans l'unité. Pourquoi il est important? C'est parce que l'élection, c'est une occasion de se retrouver. Les Congolaises et les Congolais sont libres d'avoir des opinions politiques et de pouvoir les exprimer normalement. Mais tous les Congolaises et tous les Congolais ont un socle commun qui leur est cher. Ils aiment tous leur pays. Ils veulent un Congo souverain, démocratique, indépendant, dont l'intégrité territoriale est garantie. Ils veulent un avenir pour leurs enfants. Ils ont tous un rêve de faire de leur pays un pays émergent. Ça me semble être un socle suffisamment solide sur la base duquel on peut bâtir un processus démocratique. Les élections doivent arriver dans ce contexte-là. Si les Congolaises et les Congolais doivent trouver une plateforme pour se parler, se concerter, s'accorder sur la meilleure façon de préparer ces élections, il appartient aux amis du Congo, au rang desquels les Nations Unies, d'accompagner les Congolais pour trouver cette plateforme-là et ce dialogue. Par ailleurs, pour les Nations Unies et pour les autres partenaires du Congo, notre ambition, c'est également de renforcer les capacités et les compétences des structures nationales dont le Congo s'est doté et qui sont chargées de conduire le processus électoral. Et je veux parler de la Commission électorale nationale indépendante et de ses démembrements provinciaux. Ce travail d'accompagnement, d'appui technique et de renforcement est déjà en cours. C'est aussi notre contribution pour créer les conditions pour que le jour où les Congolais et les Congolaises s'accordent sur un calendrier électoral, il peut être déroulé tranquillement au plan technique. Cela étant dit, est-ce que cela est suffisant pour garantir que les élections vont se tenir demain ou après-demain? Chère madame, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais je dis simplement, nous souhaitons simplement que le jour où les Congolaises et les Congolais s'accordent sur un calendrier électoral, notre ambition, c'est d'aider à ce que chaque Congolaise et chaque Congolais qui souhaite aller voter puisse aller le faire dans des conditions de sécurité, de transparence, d'inclusion et de cohésion qui permettent à la voix des Congolaises et des Congolais d'avoir un impact sur le résultat de l'élection, donc de choisir les hommes et les femmes qui vont animer les institutions démocratiques, qui vont guider ce pays vers son ambition d'émergence. En ce qui concerne votre question sur le 70e anniversaire des Nations Unies et la lutte contre les forces armées, j'ai bien dit, chère madame, et je me répète, que le travail de lutte contre les groupes armés et de sécurisation des Congolaises et des Congolais, de leurs propriétés, de leurs investissements et des frontières de ce pays, est d'abord primairement et principalement le travail des institutions congolaises de sécurité que sont les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Le travail des Nations Unies et des partenaires, c'est de venir en appui, en accompagnement des FARDC et de la PNC pour faire ce travail. C'est ce que nous faisons. Nous ne faisons pas un travail de substitution. Nous faisons un travail d'accompagnement. Et notre ambition, c'est de travailler avec les FARDC de façon à ce que nous réduisons considérablement ou nous éliminons les dangers que font courir aux populations congolaises de l'Est, les groupes armés et les forces négatives, à un niveau tel que ce travail peut être repris et poursuivi par les FARDC et la police nationale congolaise. Quand cela sera accompli, eh bien ces institutions congolaises reprendront à leur compte ce travail-là, qui est le leur, et ils vont continuer de le faire. Le rôle des Nations Unies est un rôle d'accompagnement, de soutien et de renforcement des capacités des FARDC et de la PNC pour qu'ils fassent ce travail. Merci.
Merci. Micro de ce côté, oui. Voilà. Allez-y, présentez-vous une question, s'il vous plaît.
Guy Oloume, RTNC2 Développement. Monsieur Diallo, lors de la 69e Assemblée générale de l'ONU, le secrétaire général Ban Ki-moon a déclaré que face à tous ces incendies qui s'allument un peu partout dans le monde, l'horizon paraît sombre et que l'ONU serait incapable d'éteindre tous ces feux. 70e anniversaire de l'ONU, peut-on le célébrer sur un fond de pessimisme? Est-ce que l'ONU est-il une statue au pied d'argile? Monsieur Diallo, que répondez-vous?
Monsieur Diallo.
Merci, Monsieur Olomé. L'Organisation des Nations Unies, j'aime bien votre métaphore. Si c'est une statue, ce n'est que le statut qui symbolise notre communauté de destin. C'est ça la statue des Nations Unies. Moi, je préfère plutôt voir le verre onusien, donc le verre de l'ensemble des nations et des peuples de la planète, comme un verre à moitié plein, plutôt qu'un verre à moitié vide. À moitié plein parce qu'effectivement, en 70 ans d'existence, cette institution que nous nous sommes donnés, qui a accompli beaucoup, mais qui reconnaît qu'il y a encore beaucoup plus à accomplir, est un outil perfectible. Elle a été créée il y a 70 ans. Est-ce que, au moment où nous parlons, elle a encore les structures, le mandat et l'orientation pour faire face aux défis qui sont ceux du 21e siècle? C'est au peuple du monde et au gouvernement du monde d'y répondre. Et ce travail de réflexion et ce travail de réorientation est déjà en cours sous le label « Réforme du système des Nations Unies ». Je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup plus de défis, mais il faut simplement dire que tous les problèmes qui confrontent notre planète, ce sont des problèmes dont nous pouvons débattre et pour lesquels nous pouvons trouver des solutions. Par exemple, vous ne me l'avez pas dit, mais je sais que vous avez probablement en arrière-pensée l'histoire des guerres asymétriques que les groupes armés sont en train de mener dans plusieurs parties du monde. Si avant, l'architecture de maintien de la paix était une architecture qui était une interposition entre des belligérants, la plupart des conflits maintenant sont de nature interne et les Nations Unies appellent à ce qu'on essaie de comprendre un peu quelles sont les causes profondes de ces conflits. Qu'est-ce qui fait que des individus, dans le cadre de leur propre pays, où il existe des institutions de recours, pensent que la seule voie de se faire entendre, c'est de prendre des armes contre leur propre peuple et leurs institutions? Il faut identifier ces facteurs-là et les traiter. Parce que sinon, le combat contre ces groupes, c'est de traiter les symptômes en oubliant le mal. Donc, les Nations Unies constituent le creuset où on peut débattre de ça pour identifier, selon les cas spécifiques de chaque groupe, quelles sont les motivations profondes sur lesquelles on peut travailler pour créer plus de cohésion entre nos communautés, plus de cohésion entre nos pays et plus de recours à des voies pacifiques de résolution des conflits plutôt qu'au recours à la force armée. Donc, les Nations Unies sont ce qu'elles sont, mais nous pouvons utiliser cette plateforme comme creuset pour discuter de ces questions-là.
Merci. Nous allons nous rendre à Goma où je suis sûr que les journalistes sont impatients pour poser également quelques questions, non seulement, c'est vrai, à M. Diallo, mais aussi à nos invités du jeu concours d'art oratoire qui est une dimension nationale. C'est pas seulement pour la ville de Kinshasa. Et donc, je le disais, il y a pas mal d'invités ici qui pourraient éventuellement éclairer ou donner des compléments d'information sur ce jeu concours. Goma, s'il vous plaît, deux questions.
Merci, Charles. Faisons comme pour Kinshasa, on se met à
C'est Gina Mouba pour le compte Citizen. Moi, j'ai une question pour le PAM, s'il y a quelqu'un du PAM. Selon les statistiques du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture délivrées le 13 octobre dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Plus de 130 000 personnes dans les territoires d'Irumu, en Ituri plus précisément, ont un accès difficile à la nourriture. J'aimerais que le PAM nous dise qu'est-ce qui cause cette insécurité alimentaire. Serait-il une fois de plus confronté à un problème de moyens ou de financement? Merci.
Monsieur Diallo voudrait prendre cette réponse.
Merci M. Bambara, merci à notre collègue de Goma de dire cette question. Il se trouve, madame, que ce territoire-là, le territoire d'Irumu, dans la nouvelle province de l'Ituri, est un centre d'intérêt pour moi dans le cadre de mon rôle de coordinateur humanitaire à République démocratique du Congo. Et j'ai déjà effectué des visites dans cette partie, dès ma prise de fonction au mois d'août, la première partie du Congo que j'ai visitée, c'est cette zone-là, les territoires de Lubero, de Beni, ensuite au sud Kivu, et là, il y a quelques semaines, je reviens du territoire de Kabambar, dans la province du Maniema. Alors, ayant été sur ces endroits que j'avais déjà connus il y a quelques années, et connaissant un peu le niveau de production agricole dans ces zones, je me suis aussi posé la question, mais j'ai trouvé la réponse. Quand j'ai vu certains villages où les personnes ont été déplacées, d'autres qui ont été abandonnées, l'insécurité que font régner les groupes armés dans cette zone-là font que les populations n'ont plus la quiétude et la sécurité dans certains endroits de pouvoir s'adonner à une activité qu'elles maîtrisent très bien, c'est-à-dire l'activité agro-pastorale. Je suis toujours impressionné, moi, quand je visite l'Est du Congo, de voir un peu la quantité énorme de produits alimentaires, de fruits, de légumes, de céréales qui sont disponibles même dans les petits marchés. Comme guise d'exemple, j'étais dans un petit village qui s'appelle Samboko, ou bien à Maïmoya, ou à Chosa Ouicha, où il y avait déjà eu quelques problèmes, mais une fois que la paix est revenue, quand j'ai fait un petit tour, je voulais voir la place du marché, j'étais impressionné par les monticules de pommes de terre, d'ignames, et tout ça qui était sur le marché. Alors je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens ici qui n'aient pas accès à la nourriture. Donc ma réponse, c'est que simplement, il n'y a pas les conditions idoines pour que les agriculteurs, les éleveurs de cette zone-là, d'Irumu, puissent aller dans leurs champs, récolter, cultiver, récolter, amener au marché, ou bien alors ils n'ont pas l'occasion d'aller produire. Donc, la réponse à la question pour le Irumu, ce n'est pas, on peut peut-être venir, et on le fera, avec le PAM pour apporter un appui ponctuel pour permettre aux enfants, aux femmes, aux personnes vulnérables de pouvoir avoir à manger. Mais la réponse à long terme, c'est de recréer les conditions de sécurité pour que ces populations puissent retourner dans leur village et vaquer à leurs occupations. Dernier commentaire sous forme de boutade, quand j'étais donc dans ce village de Samboko, j'ai eu une rencontre avec la société civile et il y a une dame qui ne parlait pas. J'ai dit, mais madame, vous ne parlez pas. Elle m'a dit, monsieur, moi je m'exprime seulement en swahili. J'ai dit, d'accord, mais vous pouvez parler en swahili. Elle a pris la parole, elle a dit, mais monsieur, nous on est ici, mais moi je veux simplement vous dire, nous ici on n'a pas l'habitude de tendre la main, nous on sait se prendre en charge. La seule chose qu'on vous demande, il faut aider les FARDC à amener la sécurité pour que nous on puisse se retourner chez nous. Une fois qu'on est chez nous, on a nos champs, on a nos élevages, nous-mêmes on peut produire, vendre, même le minerval de nos enfants que vous voyez ici, nous-mêmes on a l'habitude de payer. Donc nous on demande simplement qu'il y ait la paix et la sécurité pour qu'on retourne chez nous. C'est un message qui m'a énormément touché. Parce que je considère que c'est ça l'âme du peuple congolais. Des gens qui veulent et qui peuvent se prendre en charge. Il faut simplement créer les conditions pour qu'ils puissent le faire.
Nous restons à Goma pour la deuxième question.
Le micro est là.
Voilà, merci beaucoup. C'est Patrick Félix Abeli pour les tentes d'Horizon. On a toujours dit que la répétition est la mère des sciences. Charles Bambara, il y a deux semaines, au cours de cette conférence hebdomadaire de la MONUSCO, vous avez déclaré que la MONUSCO ne fait pas de magouilles ou soit n'accepte pas des pots de vin pour engager les gens. Et si vous vous êtes insurgé, peut-être s'il y a eu quelque chose qui était passé là, en soi, on ne sait pas. Mais je me pose la question au sein de la MONUSCO. Il y a trop d'expatriés qu'au lieu de Congolais. Si les Congolais sont là, au moins si je ne me trompe, les Congolais sont qu'à des postes inférieurs. D'autant plus que quand vous parlez du recrutement au sein de la MONUSCO et que vous venez de titrer M. Diallo qui est ça, toutes les fonctions que vous venez de dire, à mon humble avis, je pense que ce n'est pas aussi une bonne politique de renforcer les recrutements des jeunes au Congo, parce qu'il y en a aussi tant qui cherchent de tels postes comme M. Diallo pour en obtenir, mais ils n'en ont pas. Je crois alors la question est la suivante. Pourquoi cette politique au sein de la MONUSCO?
Bon, pour, en deux mots réellement, pour éclairer votre lanterne, il faut dire simplement que sur l'ensemble du staff de la MONUSCO, le staff national sont de loin les plus nombreux. Hein. Les expatriés représentent une infime partie du staff national, du staff de la MONUSCO civil. Donc voilà, c'est vrai que vous voyez beaucoup d'internationaux, mais il y a encore beaucoup plus de nationaux qui existent. N'oubliez pas que beaucoup de Congolais travaillent dans les institutions internationales à travers le monde, et travaillent notamment dans d'autres missions des Nations Unies, et qui sont à des grades très élevés. Hein. Je prends la mission du Mali, où le chef du bureau conjoint des Nations Unies là-bas, pour les droits de l'homme, est un Congolais. Donc, Monsieur Aranas que vous voyez ici, son équivalent à la MINUSMA au Mali, c'est un Congolais. Et donc, si on prend les autres missions en Centrafrique et ailleurs à travers le monde, vous allez voir que beaucoup de Congolais occupent des postes très élevés. C'est vrai que ici, nous sommes dans au niveau de la RDC à la MONUSCO. Nous avions, donné ce communiqué pour dire ou alerter les gens parce qu'ils nous étaient revenus que beaucoup de personnes mal intentionnées essayaient, alors que les recrutements au sein de la MONUSCO est complètement, j'allais dire, libre de tout frais, certains essayaient de monnayer donc les recrutements de la MONUSCO pour tromper leurs compatriotes et prendre de l'argent. Donc nous avons effectivement alerté les uns et les autres pour qu'ils puissent faire attention. Les recrutements au sein du système des Nations Unies, c'est vrai à la MONUSCO, mais à travers le monde entier, n'engendrent aucun frais, sont vraiment libres de tout paiement. Et donc, si vous arrivez que quelqu'un vous demande des frais parce que vous voulez postuler à tel ou tel poste, alertez-nous parce que on a, et c'est vrai, trompé pas mal de Congolais sur ce terrain. Et nous pensons que ce n'est pas normal. C'est pour cela que nous avions donc émis ce communiqué à l'époque. Voilà, Monsieur Diallo.
Monsieur Bambara, avec votre permission, j'ai été personnellement interpellé par le collègue, donc je voulais peut-être lui donner quelques informations, mais en appui et pour renforcer ce que vous avez dit, vous avez parlé de la mission, mais les différentes casquettes que j'ai me donnent l'opportunité, chers confrères, de vous dire qu'effectivement, si la MONUSCO c'est ça, la MONUSCO c'est une mission, mais les agences, les fonds et les programmes du système des Nations Unies qui travaillent ici ont plus de 80% ou quelquefois même 85 ou 90% de leur personnel qui sont des staffs nationaux congolais. Ça, ce n'est pas la mission. Ce sont les 22 agences, fonds et programmes des Nations Unies qui travaillent au Congo. Vous ne les voyez pas souvent, mais la plupart de leurs staffs sont des Congolais. Et chaque fois, et pour vous rassurer, nous avons aussi un programme qui vise à identifier, à soutenir et à aider les jeunes Congolais et les jeunes Congolaises talentueux pour commencer une carrière aux Nations Unies et pourquoi pas aller à l'international. Chaque fois qu'on me parle de ça, j'aime toujours citer quelqu'un qui, pour moi, a été une référence dans le système des Nations Unies et au PNUD et que je considère toujours comme un grand frère et un mentor. C'est l'ancien coordinateur résident du système des Nations Unies, M. Mbaya Kankwenda, qui a pris maintenant sa retraite et qui est ici au Congo. Moi, j'ai considéré que si quelqu'un m'a aidé, m'a guidé, m'a appuyé, m'a conseillé dans ma carrière aux usines, c'est bien lui. Donc, je me considère comme son petit frère. Il est ici et c'est l'un des hauts cadres congolais qui a représenté valablement son pays dans le système des Nations Unies en occupant plusieurs postes internationaux pendant près de 30 ans.
Tout à fait. Nous savons que Radio Okapi d'un moment à l'autre va continuer avec le journal, mais nous avons pas mal d'invités ici avec votre permission. Nous allons continuer cette conférence de presse pendant encore 10 minutes. Et je rappelle que nous avons nos invités qui organisent ce jeu concours et qui est très important. C'est un jeu concours qui a une dimension nationale et qui s'adresse bien sûr à tous les étudiants et étudiantes de la RDC. Je vois une main de dame derrière. Il y a une autre dame, mais on va prendre la dame qui est juste derrière là, oui. Allez-y, prenez le micro et puis votre question, s'il vous plaît.
Merci, Monsieur Bambara. C'est Sylvie Fortuné, oui, d'Antenne A. En fait, je ne sais pas quels sont les responsables militaires qui sont là-bas. C'est une question en rapport avec la situation à Beni. Le vendredi dernier, nous avons appris encore qu'il y a eu des tueries. Des présumés ADF auraient incendié deux maisons sur place. En fait, une fois, Monsieur Kobler, je me rappelle, nous a dit ici que ce sont des gens qui opèrent comme des terroristes. Mais on ne peut pas comprendre que des terroristes viennent, incendient des maisons, Ils ont le temps de préparer, de manger. Nous avons diffusé ces images chez nous, de gens qui ont tué, préparé la nourriture et mangé. Et la brigade d'intervention de la MONUSCO, elle vient constater le fait. Finalement, les responsables de la société civile de Béni voudraient que cette brigade quitte le lieu parce que elle ne remplit pas son devoir de protéger la population. Elle fait quoi, cette brigade à Béni? On voudrait savoir aujourd'hui, pour apaiser peut-être nos compatriotes qui sont là-bas à Béni, parce qu'elle ne voudrait plus voir cette brigade dans cette partie du pays. Finalement, elle ne fait rien. Merci.
Contrairement à ce que vous dites, vous savez que depuis de longs mois, la MONUSCO a délocalisé, par exemple, ces drones qui étaient installés à Goma, dans le territoire de Béni. Pourquoi ? Pour faire face justement à la recrudescence des attaques, notamment des ADF. Nous avons dit ici à plusieurs reprises, les ADF sont un groupe terroriste, effectivement, qui, depuis le début de l'opération Sokola 1, menée par les FARDC, avec l'appui de la MONUSCO, ont été vraiment mis à mal. La force de nuisance de ce groupe-là a été mise à mal. C'est vrai qu'elles continuent à faire des exactions, mais nous ne pensons pas qu'elles ont, à l'heure actuelle, la même force de frappe qu'il y a 2 ans, au début de cette opération, avant le début de l'opération Sokola 1. C'est vrai, et nous le déplorons, et nous le condamnons, qu'il y a ces exactions contre les populations. Mais n'oubliez pas que ces derniers temps, nous entendons ce discours de reprise des opérations conjointes FRDC-MONUSCO que nous avons appelées de tous nos voeux. Et nous pensons que l'union faisant la force, si les FRDC et la MONUSCO se mettent ensemble sur le front réellement de la lutte contre l'ensemble de ces groupes armés présents non seulement au territoire de Béni, mais dans le territoire de Walikale, mais dans les autres localités de l'Est de la République démocratique du Congo, nous pouvons les éliminer en un temps record. N'oubliez pas que le M23 a disparu en moins d'un mois, ou pratiquement en moins de quelques semaines. Le M23 a disparu. Pourquoi ? À cause des opérations conjointes menées par les FRDC et la force de la MONUSCO contre ce groupe armé-là. Nous pouvons en faire de même s'il y a une conjonction de forces FRDC-MONUSCO sur le terrain. Et nous pensons que cela pourrait se faire dans les jours qui viennent, sinon dans les semaines qui viennent. Nous allons prendre une deuxième dame avant de repartir, avant de venir à la gauche ici, à la droite du moins.
Oui, c'est Dede Ndomba pour la RTNC Radio. Ma question, je l'adresse à Madame Belinda, rapporteure à la Commission nationale pour les droits de l'homme. Madame, quelles sont les universités qui sont concernées ou bien choisies pour ces concours? Et puis, pourquoi l'intérêt de ces concours?
Merci madame pour votre question. Je crois qu'en introduction, monsieur Bambara avait expliqué que toutes les universités congolaises sont concernées, mais les universités légalement établies dans notre pays. Donc pour ça, la question concerne, le jeu concours concerne les étudiants de toutes ces universités-là. Et l'intérêt, comme vous pouvez le comprendre, c'est de faire approprier la question des droits de l'homme à toute la population congolaise, en commençant par la jeunesse. Parce que cette culture de droits de l'homme, si elle commence déjà par les jeunes de la RDC, je crois qu'avec l'évolution, nous n'aurons pas, sinon pas beaucoup de problèmes de violation des droits de l'homme dans notre pays. Et c'est pourquoi la Commission nationale des droits de l'homme, comme vous le savez, sa mission est de promouvoir la culture des droits de l'homme, et c'est pourquoi nous nous sommes intéressés justement à participer à ce concours-là.
Je vais peut-être rester sur ce concours. On a parlé des prix. Le premier prix, c'est une bourse d'études, un master 2 dans une université française. Les autres prix, ce serait quoi alors ?
Pour la CNDH, moi je parlerai plutôt pour la CNDH, c'est le prix des ordinateurs portables aux lauréats.
Et ensuite, d'autres prix ? Beaucoup d'autres prix ?
Oui, il y a des ouvrages qui seront donnés, et puis il y aura d'autres prix qu'on n'a pas encore sécurisés, qu'on ne peut pas annoncer ici.
D'accord, merci.
C'était le deuxième concours, et cette fois c'était ouvert pour toutes les universités de tout. Tous les étudiants de toutes les universités. Avant, c'était seulement pour les étudiants de droit ici à Kinshasa. Maintenant, c'est ouvert pour tous les étudiants de toutes les universités du pays. C'est une très, très bonne opportunité, pas seulement de gagner des prix, mais aussi de vulgariser, de montrer les connaissances en matière des droits de l'homme.
Donc, vous avez compris, c'est pas seulement pour les étudiants en droit, c'est pour tous les étudiants en deuxième année. Nous allons prendre une dernière question ici avant de repartir à Goma. Micro, s'il vous plaît.
Merci, c'est Isaac Ngwenza pour le compte de Congo Opportunity. Ma question, c'est juste en rapport avec le concours. Pourquoi des dispositions restrictives en rapport avec l'âge? J'ai vu là de 30 ans révolu. Un garçon de 28 ans ou 27 ans, pourquoi il ne peut pas participer à cela? Merci.
Réponse.
Je ne sais pas si je dois répondre ou je vais essayer de me faire compléter par Julien. Vous savez, dans tout concours, dans toute activité, il faut toujours une limitation. Quand on dit 30 ans et plus, c'est donc parmi les critères retenus. Et bien sûr, c'est une proposition, comme vous le dites. Il sera peut-être examiné dans les tout prochains, dans les organisations prochaines. On pourra tenir compte selon les critères qui seront arrêtés. Mais pour cette question-là, je préfère passer la parole au bureau conjoint.
Julien, qui est du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Julien,
je pense que vous avez mal compris. On a dit au plus 30 ans. C'est ça. Donc ça veut dire il faut que celui qui a 28 ans est dans le délai, est dans la limite d'âge. Celui qui a 29 ans, celui qui a 30 ans, le 27 octobre, donc le jour où il vient déposer, envoyer son dossier, s'il a 30 ans au plus ce jour-là, il est qualifié, il ou elle est qualifié. Voilà. Donc c'est le maximum, parce que vous savez, une bourse, il y a toujours des critères liés aussi. Il y a vous avez un prix qui est une bourse d'études, il y a des limites d'âge, donc on y peut.
Monsieur Aranaz.
Non. Et c'est parce que c'est qu'on veut faire, c'est vulgariser la question des droits de l'homme dans la jeunesse. Après 30 ans, il y a des autres opportunités.
Goma, on va prendre deux questions à Goma avant de clôturer, s'il vous plaît. Goma, deux questions.
Je m'appelle Roberto, je suis journaliste indépendant, correspondant de la radio des messagers d'ici Kivu. Ma question s'adresse à M. Charles Bambara. Vous êtes un grand partenaire de la RDC et que nous acheminons lentement vers les élections. Est-ce que vous pourriez nous assurer que les élections auront bien à la République démocratique du Congo? Merci beaucoup.
La question a déjà été répondue par M. Mamadou Diallo tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être pas la peine de revenir dessus. Nous vous enverrons le transcript de cette conférence de presse où vous verrez donc la réponse fournie par M. Diallo au début de cette conférence de presse. Deuxième question à Goma, s'il vous plaît.
Je m'appelle Fiston Misson Matabaché, je suis de la radio Sauteraïa à Walikale, présent à Goma. Je pose la question en rapport avec le G-Concours. Est-ce qu'il y a l'engouement par rapport à ce G-Concours? Et s'il y a l'engouement, est-ce qu'on peut savoir le statistique partiel par rapport à ce concours dans l'ensemble de la RDC?
Est-ce qu'il y a un engouement à ce G-Concours? Mais je rappelle que le G-Concours est lancé officiellement aujourd'hui, hein. L'engouement viendra dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Il y a quelque chose à ajouter, non? Une dernière information sur ce jeu Congo?
Juste pour informer, si nous avons des représentants des universités dans la salle, qu'ils veuillent attendre, parce qu'on a des affiches et quelques éléments visuels qu'on va leur distribuer pour leurs universités respectives. Donc, ils veuillent attendre à la fin de cette conférence de presse. Merci.
Merci. Nous allons prendre une toute dernière question ici. Oui, complément alors. Complément sur le jeu concours toujours.
Par rapport à l'engouement, je crois que vous avez dit que ça a été lancé aujourd'hui et Julien a dit que les universités sont là justement pour ça, mais la presse est également pour ça. Si la presse est là, ça veut dire que dans toutes les langues de la RDC, langue officielle et nationale, le message devrait être passé. Et je crois que c'est la contribution de tous. Bien sûr, ça peut passer directement par les universités, mais la presse peut également diffuser le message.
Dernière question. À Kinshasa, s'il vous plaît.
Merci. Ma question s'adresse à M. Mamadou Diallo. À chaque rapport, la MONUSCO nous dit que le FRDC et le force de la MONUSCO ont la maîtrise de la situation sur le terrain, malgré certaines actions criminelles qui se font. Vous dénoncez aussi la reconstitution des groupes armés. Alors, j'aimerais savoir à quel moment les groupes armés se reconstituent-ils pour revenir poser leurs actes criminels, où se trouvent les forces de la MONUSCO au moment où vous maîtrisez la situation sur le terrain? C'est Freddy Goukala de CBS.
Merci, M. Moukalala. Et je pense que M. Bambara a déjà donné des éléments de réponse concernant votre question. Il faut simplement savoir que la plupart de ces groupes armés, sur la base des opérations actuellement menées par les FARDC, en soutien de la MONUSCO, telles que les opérations Soukola, Mangouz et autres, ces groupes sont sous pression. Et quand ils sont sous pression, la meilleure façon de pouvoir répondre à ces pressions, c'est de pouvoir faire de la diversion. Et cette diversion consiste à revenir à attaquer les populations civiles telles que ce que vous avez vu à Béni, afin de pouvoir amenuiser, réduire la confiance mutuelle et le soutien que la population apporte au FARDC et aux forces de la MONUSCO dans leur lutte contre ces groupes armés. N'oubliez pas que c'est aussi une lutte pour les cœurs et pour le soutien de la population. Donc, en revenant en commettant ces atrocités, c'est de pouvoir dire oui, voilà, mais ils sont là, mais ils ne vous protègent pas. La question de votre collègue tantôt qui demandait, mais est-ce que ce n'est pas bien de demander le départ de la compagnie qui représente la force, la brigade d'intervention, la MONUSCO de Béni? J'aurais pu lui retourner la faveur en disant, mais dans ce même cadre, alors pourquoi ne pas demander le départ du contingent des FARDC qui sont sur place? Parce que le travail, et il faut se dire simplement, la bonne collaboration, la planification conjointe et les opérations conjointes entre la MONUSCO et les FARDC, c'est la clé du succès. Là où la connaissance du terrain des FARDC, les moyens de surveillance et de contrôle de la MONUSCO, et les forces des deux, les capacités des deux groupes sont mises ensemble, les chances de succès pour identifier, isoler et détruire ces groupes armés et couper leurs lignes de retrait et leurs lignes de ravitaillement sont les plus importantes. Mais là où cela n'est pas, des opérations ponctuelles ne permettent que de les chasser de certaines zones. Ils vont, ils reviennent et ils continuent de harceler la population civile parce qu'ils n'ont pas les capacités, ni la volonté, ni le courage de s'attaquer au FARDC directement aux forces de la MONUSCO. Donc ce travail, c'est un travail, il faut appeler de nos voeux la poursuite de cette collaboration entre la MONUSCO et les FARDC qui est la seule clé d'un succès durable pour réduire le risque posé par ces groupes armés et permettre maintenant à la police nationale congolaise de s'occuper de ça parce que la plupart sont devenus maintenant des groupes de pillards et de bandits qui s'attaquent à la population civile pour essayer de les empêcher de vivre dans la quiétude.
Voilà, merci à M. Diallo, merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence de presse et bonne chance au jeu concours d'art oratoire.
C'était bon. Vous êtes excellent. Vous allez gagner le grand prix. Il va rafler le premier prix. Il va